de la patience de persévérer en ton nom. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle. Merci pour ta parole qui est bonne pour nos cœurs. Merci Jésus. Dieu veut reconquérir le peuple de ses enfants. Ça, c'est important. C'est une parole magnifique dans le livre d'Osée. Nous allons voir un peu le prophète Osée, qui a vécu entre autres au temps d'un autre roi qui s'appelait aussi Osée. D'un roi qui s'appelait Osée, mais lui, c'est le prophète. Hein. Au chapitre 2, donc Osée 2, et au verset 16, Osée, chapitre 2, verset 16. Et Dieu dit ceci, dans la traduction français courant, « Je vais donc la reconquérir et la reconduire au désert, et je retrouverai sa confiance. De là, je lui rendrai ses vignes, la sinistre vallée d'Achor, deviendra pour elle une porte ouvrant sur l'espérance. Elle m'y suivra volontiers, comme lorsqu'elle était jeune, comme au temps de la sortie d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur, elle m'appellera mon mari, et non plus mon Baal, mon maître. » Verset 21, « Israël, c'est pour toujours que je t'obtiendrai en mariage. Pour t'obtenir, je payerai le prix. La loyauté et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, je t'obtiendrai par la fidélité, alors tu me reconnaîtras comme le Seigneur. » Amen. Et trois, ici, ce livre d'Osée nous parle de beaucoup de choses, et en particulier de trois mots. Trois mots sur lequel est articulé ce livre, trois mots, le péché, le jugement et le salut, la restauration. Trois mots. Et on va étudier un petit peu chaque mot de ce livre pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Le péché d'abord. Alors, la première partie du livre d'Osée nous parle de l'adultère spirituel. Donc Israël, le peuple d'Israël, vous savez que après Samuel, Dieu avait demandé un roi, et Dieu lui avait accordé à son peuple un roi, quoique Dieu était le roi d'Israël. Enfin, bon, ils ont voulu faire comme les autres nations, ils ont eu un roi, Saül, puis David, hein, un grand royaume, qui après Salomon sera divisé en deux parties, le royaume du sud et le royaume du nord. Voilà, donc Éphraïm ainsi que les tribus du nord vont plus s'entendre avec le sud, c'est-à-dire Juda et Benjamin. Pourquoi ? Parce que Roboam, le fils de Salomon, était, trop orgueilleux. Il n'a pas écouté les conseils de Dieu. Et finalement, le peuple était venu trouver pour dire, voilà, permet que le joug soit moins dur que celui que nous avons reçu par Salomon. Parce que vous savez qu'au temps de Salomon, le peuple avait bien dur, puisque chaque tribu devait payer la cour du roi Pharaon, et c'était une cour avec 1000 femmes et autres. Et donc c'était fastueux, c'était vraiment, tout était faste, tout était richesse exubérante, et le peuple voulait que les impôts diminuent. Hein, ça n'a pas changé. Je pense que les gens sont pas très contents pour l'instant. Donc, que ce soit les impôts, que ce soit la pension, que ce soit autre chose. Donc, il y a plein de mécontentement généralisé actuellement. Hein, vous le savez, il y a les grèves, etc. Vous êtes bien placés pour le savoir. Et donc, en fait, Roboam n'a pas accepté les revendications du peuple. Et à cause de ça, eh bien, voilà, le peuple s'est divisé en deux. Ils ont dit, ben, t'as qu'à t'occuper de tes histoires, nous ensemble. Et ils ont créé un autre royaume, c'est Jéroboam Ier qui est devenu le roi dans le nord. Et ils ont une histoire, donc, parallèle, deux royaumes à la place d'un. Royaume du Nord, avec Samarie comme capitale, et Royaume du Sud, avec Jérusalem comme capitale. Mais vous savez, pour la petite histoire, que le Royaume du Nord ne va pas bien se conduire à partir déjà de Jéroboam Ier, qui était le premier roi. Pourquoi ? Parce que dans la petite tête de Jéroboam, il y avait une crainte, c'est que les Israélites retournent au fait à Jérusalem. Ça, c'est embêtant. Ça, s'ils reviennent à Jérusalem, c'est dans le royaume de Juda. Alors, pour éviter que ça se produise, bien, on avait construit un veau d'or qui représentait l'Éternel. C'était très rassurant. Le veau représente Dieu, donc c'est pas une idole. C'est simple, ça représente Dieu. C'est Dieu qui, voilà, qui vous avait donné la loi. Et on remplaçait un à Dan et l'autre à Bethel. Et donc un près de la frontière et un tout à fait au nord. Et ainsi, comme ça, les Israélites allaient d'un côté ou de l'autre. Et il avait établi comme sacrificateur des gens qui ne faisaient pas partie de la tribu de Lévi. Et ça déshonorait fortement le Seigneur, qui était fort attristé par cette situation. Ils ont conservé ça pendant toute la durée du royaume du Nord, parce qu'ils avaient toujours peur qu'ils retournent lors des fêtes à Jérusalem, même s'ils savaient que c'était à Jérusalem, l'endroit que Dieu avait choisi pour y faire honorer son nom, puisque le temple s'y trouvait. Mais enfin, soit, il n'y aura aucun bon roi dans ce royaume du Nord, et finalement il disparaîtra. En 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens viendront assiéger la ville de Samarie, détruire et déporter la population, remettre des Assyriens à Samarie, etc. Enfin, voilà, ça va être démantelé. Et le royaume du Sud, eux, ben, ils vont continuer à exister jusqu'en 586, plus ou moins avant Jésus-Christ, alors que Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, vous voyez, est venu de Babylone, hein. Le roi de Babylone est venu pour détruire également le royaume de Juda. Alors, pour revenir donc, le péché, l'adultère. Alors, pour faire comprendre l'adultère spirituel du peuple d'Israël, Dieu demande quelque chose de particulier à Osée. Il lui demande d'épouser une prostituée. Et voilà, il va obéir à ce que Dieu lui montre. Il va obéir, il va prendre Gomère, prostituée, avec qui il aura trois enfants, deux fils et une fille, d'abord un fils, une fille, un fils. Et voilà, et cette femme va le tromper. Hein. Il lui aurait demandé de ne pas le tromper, mais bien sûr, avec le temps, eh bien, c'est quand même ce qui va se produire. Et donc, c'est vraiment l'image de Dieu qui a pour épouse Israël et qui lui est infidèle. Et là, il y a la reproduction au niveau du couple, Osée, Gomère. Il y a vraiment cette situation, il vit vraiment cette situation, la situation que Dieu vit lui-même. Donc les sentiments que Dieu a en lui, eh bien, le prophète là aussi, il est attristé. Il est vraiment... Et c'est quelque chose de très, très douloureux pour lui. Maintenant, il y aura une restauration. Et il y a une promesse de restauration aussi par rapport au couple et par rapport aussi, bien entendu, à cette relation qui unit Dieu et son peuple. Dieu avait fait une alliance avec Israël. L'alliance est établie sur la loyauté qui conduit à la bénédiction. La loyauté, c'est tellement important. On ne parle plus beaucoup de loyauté, hein. Une valeur essentielle, importante, la loyauté. Être loyal, fidèle à son engagement. Hein. Je fais un engagement lors de mon baptême, je fais un engagement lors de mon mariage, je m'engage dans ma vie chrétienne avec Dieu et est-ce que je vais tenir cet engagement? Est-ce que je vais retenir cet engagement? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un dérapage quelque part? Donc, faisons attention. Hein. Dieu demande la fidélité, la loyauté à l'engagement. Ce qui sort de nos lèvres, Dieu l'entend et Dieu veut voir. Dieu voit ces choses s'organiser. Dieu demandait un culte exclusif et l'observation de ses commandements. Dieu, il est exclusif. Ça vous étonne que Dieu soit exclusif? Donc, en fait, si par exemple on considère la vie de Salomon, il a bien commencé Salomon. Il a vraiment établi le temple à Jérusalem. Il a servi le Seigneur. Dieu lui a donné une sagesse au-dessus de tout ce que les hommes avaient pu recevoir jusqu'alors. Et puis, petit à petit, son cœur s'est laissé aller. Et bon, on a commencé à copier le monde. Et le monde, à ce moment-là, voulait qu'un roi, s'il voulait être important, s'il était important, il pouvait avoir plusieurs femmes. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est normal. Si un roi est important, à ce moment-là, il peut avoir beaucoup de femmes. Enfin, dans les nations autour d'Israël. Et donc, il a reproduit cela. Il ne fallait pas qu'il se marie avec des étrangères, mais il l'a fait. La fille de Pharaon, etc. Et finalement, il a eu jusqu'à 700 femmes et 300 concubines. Alors là, c'était un grand roi, hein, on peut dire. Hein. Il y a d'autres rois dans le monde qui ont fait cela, même au XXe siècle, mais peut-être pas avec des chiffres pareils, mais... Israël s'est tourné vers les idoles défendues par Dieu. Parce que on parlait des veaux de Dan et de Bethel, qui représentent normalement l'Éternel, au départ en tout cas, mais ça ressemble beaucoup aux idoles des autres nations, et finalement, dans l'esprit des gens, avec le temps, ça va devenir réellement des idoles. Et il y a aussi Baal, l'idole de Baal. Alors, que représente Baal? Eh bien, il représente, c'est le culte de la fertilité et le culte de la fécondité. Fertilité et fécondité, donc, par rapport au sol, c'est l'abondance, si on sert Baal, parce que c'est le dieu des tempêtes, des inondations, des eaux, mais l'eau qui va produire du fruit, hein, dans le bon sens du terme, parce que c'est un pays de sécheresse à certains endroits, c'est pas toujours évident, donc avoir un dieu qui permet d'avoir l'eau quand il le faut, c'est très intéressant pour toutes les nations avoisinantes. Ils ont accueilli ce dieu Baal et aussi le dieu de la fécondité. C'est très important. Il y avait plus de 80% de personnes qui travaillaient dans l'agriculture, enfin, au niveau des sols, hein, peut-être davantage. Et donc très important aussi d'avoir des fils et d'avoir des filles, bien sûr, les filles qui est de leur mère et les fils qui travaillent dans les champs, etc. Donc les enfants, c'est très important. Donc la fécondité, c'est vraiment très important. Et donc Baal représente à la fois ce dieu de la célébration de la fécondité et de la fertilité. Et alors, les fruits de cette désobéissance, c'est une désobéissance, évidemment. Ils ont choisi de se soumettre à des dieux étrangers. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a toujours des fruits qui accompagnent le péché de quitter la primauté de Dieu, de quitter le fait que Dieu soit en premier, d'aller vers autre chose et de reléguer Dieu à la xème place. Dans notre palmarès personnel de priorité. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la justice sociale, les crimes violents, l'hypocrisie religieuse, la révolte politique, les alliances étrangères, l'arrogance, l'ingratitude. Toutes ces choses vont se trouver dans le peuple, d'une manière ou d'une autre. Et donc, nous savons bien les fruits de l'esprit. Hein, l'amour, la paix, la joie, etc. Mais il y a aussi les fruits de la chair, on va dire comme ça, hein, et qui sont la pudicité et tout le restant. Hein. Le péché nous conduit toujours dans l'esclavage. Ça c'est clair. Hein. Ça, si on est esclave de ce qui a triomphé en nous. Si c'est la justice qui a triomphé en nous, on n'est plus esclave. L'esclave de la justice, c'est la paix, la joie, l'amour, c'est le royaume de Dieu. C'est extraordinaire. Mais si le péché triomphe en nous, nous sommes esclaves. Donc, c'est tellement important de réaliser que l'esclavage est toujours accompagné de souffrance et de blessures. L'esclavage, on n'en sort pas indemne. Et il y a des pertes. Il y a des pertes, forcément, il y a beaucoup de déceptions. Et finalement, on se dirige vers la mort. C'est ça le péché, on se dirige vers la mort. Déception, tristesse, souffrance, blessure, perte. Vous allez me dire, il y a beaucoup de ces choses-là aussi qu'on peut avoir quand on obéit à Dieu. C'est vrai, mais c'est autre chose. Les blessures qui sont faites dans l'obéissance, c'est un peu différent quand même. On se remet plus facilement, en tout cas, parce que le Seigneur est avec nous. Quand nous persévérons dans le péché, quelquefois, on est un peu abandonné au péché. Il peut nous faire, quoique Dieu a toujours un œil sur nous et veut toujours nous récupérer. Tôt ou tard, il y aura un temps où Dieu parlera à notre cœur et voudra nous ramener à lui. Alors, le deuxième mot, c'est le jugement. Le jugement, forcément, s'il y a péché, il y a jugement. Hein, ça, on peut être sûr. Aujourd'hui, on essaye de dire non, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de diable, et donc il n'y a pas de jugement. Le jugement, je peux en avoir pour moi-même, mais c'est bon, ça s'arrête à moi. Les autres n'ont pas à savoir ce que je fais dans ma vie. Ça m'intéresse, ma vie m'intéresse pas les autres. Et Dieu, comme Dieu n'existe pas, je fais ce que je veux de ma vie. Et c'est ainsi qu'on a une société qui est complètement, qui devient de plus en plus antichrist. Dieu est mis dehors. Déjà dans les cours de religion, maintenant, on doit être formé. Enfin, tous ceux qui veulent, on les pousse un peu à aller dans la neutralité. Et alors, on va devoir donner des cours aux gens sans pouvoir dire ah, attention là. Il va falloir les laisser aller là, un peu, peut-être reprendre les grands principes, mais les principes qu'on pourra donner, ce sera peut-être pas forcément des principes chrétiens, loin de là. Et donc, je ne sais, notre société part dans c'est l'humanisme, l'homme au centre, avec, oui, ça peut paraître très très bien, mais au final, il y a quelque chose d'antichrist très profondément qui vont venir. Et moi, je suis sûr que ici en Belgique, par exemple, les gens vont être à la recherche de Dieu. Parce qu'on va plus leur en parler peut-être dans les écoles, mais ils seront finalement à la recherche de Dieu. Alors, la désobéissance, qu'est-ce qu'elle amène? Je disais tantôt, le jugement et l'exil. Finalement, attention, c'est ce qui avait été dit à Israël, si vous péchez, il y aura des jugements qui tomberont sur vous, puis vous serez déportés. C'est ce qui leur arrivera, mais ils reviendront d'exil. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours une restauration possible. Ça, c'est important. Pour l'Église aussi, Jacques dit ceci, infidèle, Jacques chapitre 4, verset 4, infidèle que vous êtes, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Il y en a qui, quelquefois, nous voulons faire des grands écarts. Nous voulons faire un pied avec Dieu, un pied avec le monde, et on va essayer de marcher comme ça. Jusqu'à un certain point, on va peut-être marcher. Puis, maintenant, si un précipice entre mes deux jambes, je vais peut-être tomber parce que la fente va peut-être être tellement grande que je vais tomber d'un côté ou de l'autre. Faut faire attention quand même. Infidèle que vous êtes, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Donc, être ami de Dieu, c'est pas simplement être à moitié ami avec Dieu et à moitié ami avec l'esprit du monde. Le monde, pour moi, c'est plus l'esprit de ce monde présent. L'esprit de ce monde. Nous avons des amis dans le monde. Et nous devons avoir des amitiés dans le monde pour leur parler de Jésus. ne vont pas être influencés par l'esprit de ce monde. Ça, c'est différent. Nous devons influencer par l'esprit du Christ les gens qui sont dans le monde afin de venir à Christ. Sinon, c'est le contraire qui va se produire. Nous avons été influencés par les gens du monde, par l'esprit de ce monde. Là, c'est tout notre combat, en fait. Hein? Et souvent, le monde rentre dans l'Église. Quand on ne fait pas attention, si on ne veille pas, c'est l'esprit du monde qui rentre dans l'Église. C'est l'esprit qui doit être au centre de nos vies. C'est la volonté de Dieu. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, premièrement. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une primauté là, très importante. Alors, le nom donné aux trois enfants de Gomer et de Osée évoque les relations d'Israël avec son Dieu du fait de son inconduite. Et cette situation va perdurer. Donc, Jisréel, Dieu saint, Dieu disperse lo Rukama et n'a pas obtenu miséricorde, lo Ami, pas mon peuple. Et donc, Dieu, au travers des noms donnés aux enfants de d'Omer et de d'Osée, définisse un peu combien Dieu est attristé sur l'état de santé spirituelle de son peuple. Osée, chapitre 10, verset 2, dit ceci, « Leur cœur est partagé, ils vont en porter la culpabilité, l'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs stèles. » Leur cœur est partagé. Nous ne pouvons pas avoir un cœur partagé. Nous devons avoir un cœur à 100% pour Dieu. S'il n'est pas 100% pour Dieu, on va se faire reprendre. Salomon a bien commencé, on voit comment ça a terminé. Et le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Si notre cœur n'est pas livré entièrement au Seigneur, tôt ou tard, il va être pris. Si on ne se donne pas entièrement à l'Éternel. Si nous nous accrochons à l'argent, sachons que nous pouvons tout perdre du jour au lendemain. Si nous avons une relation en dehors de la volonté de Dieu, cette relation peut se briser sans nous avertir. Si notre cœur est tourné vers les choses de ce monde, sachons qu'il peut arriver un séisme qui va nous replacer dans le désert spirituel où nous n'aurons plus rien sur quoi nous appuyer. Et voilà. Donc le jugement de Dieu par rapport à Israël, c'est de les placer dans le désert. En fait, le désert. Ils vont tout perdre. Ils vont perdre parce que l'ennemi viendra du nord. J'avais dit, les Assyriens, ils vont se réfugier dans les bras de l'Égypte, mais ça ne les sauvera pas. Ils seront quand même détruits. Ils vont tout perdre. Pourtant, au temps où Osée écrit, c'est au temps où Jéroboam II dirigeait le peuple. Et au temps de Jéroboam II, c'est l'opulence, c'est la richesse. C'est la prospérité. Vous pouvez se dire, tiens, bien, nous pêchons, et alors, on vit bien, on est super, nickel. Quand tu dis comme ça, ça marche pour nous, et ça va pas durer. Donc, ça pouvait être tendancieux dans le sens où, parce que pour eux, le signe de richesse, c'est un signe de bonne santé spirituelle. Mais, ce n'était pas vraiment comme ça que Dieu voyait les choses. Or, Dieu a en vue, la troisième étape, c'est la restauration. C'est vrai, il va y avoir un jugement, ils vont être conduits au désert, mais Dieu va restaurer le peuple. Dieu a montré la nudité et la honte d'Israël. Mais au lieu de chasser définitivement l'épouse ingrate et coupable, il l'a attirée et menée au désert. Là, dans sa miséricorde, il parle à son cœur. Il l'amène au désert, il l'attire pour lui parler. Et quand nous sommes avec tout notre petit confort, nous pouvons que tout peut tourner comme ça pendant très longtemps. Nous sommes peut-être pas en conformité avec toute sa parole, mais ça marche. Mais quand Dieu commence à nous retirer tout sur quoi nous pouvons nous appuyer. Bon compte bancaire, tout va bien. Et on est en train d'entrer dans le désert. Nous sommes en train de perdre. Là, on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis chamboulé. C'est comme un prunier qu'on a secoué. Il n'y a plus aucune prune, peut-être, sur l'arbre. Et là, c'est un véritable séisme. Et qu'est-ce qui va m'arriver? C'est souvent quand il n'y a plus rien, quand je suis dans le dénuement, que je me tourne vers Dieu. C'est souvent comme ça que Dieu fait. Le jugement, ça vise justement à se retrouver nu avec nous-mêmes. Les yeux dans notre cœur et voir un petit peu ce qui s'y passe et pouvoir avoir les oreilles ouvertes sur ce que Dieu pense de nous et voit dans notre vie. Alors, la sinistre vallée d'Achor. Il est parlé de la vallée d'Achor. On va leur lire au verset 17, Osée 2, 17. De là, je lui rendrai ses vignes. La sinistre vallée d'Achor deviendra pour elle une porte ouvrant sur l'espérance. Elle m'y suivra volontiers comme lorsqu'elle était jeune, comme au temps de la sortie d'Égypte. Donc, Dieu la tire dans le désert. Et le but, c'est de la faire sortir de ce désert. C'est qu'il y ait une porte d'espérance qui s'ouvre pour Israël. Dieu veut rendre le pays promis. Vous savez qu'il y aura l'exil, mais il y aura aussi le retour d'exil. Il y a toujours une solution. Après la punition, il y a aussi l'amour, la présence de Dieu. Mais même quand ils étaient déportés, Dieu a été aussi avec eux. Si on se tourne vers Dieu, eh bien, il se tournera vers nous. On sait que malheureusement, par rapport au royaume du Nord, là, ils sont vraiment détruits. Ils ne reviendront pas. C'est par rapport au royaume de Juda qu'un reste reviendra de Babylone. Au royaume du Nord, non. C'est vrai qu'ils ne reviendront pas. Alors, la sinistre vallée d'Achor deviendra pour elle une porte ouvrant sur l'espérance. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de vallée d'Achor dans cette histoire-là? C'est quoi la vallée d'Achor? C'est intéressant, vraiment intéressant. La vallée d'Achor, c'est la vallée du trouble, le lieu où nous avons eu affaire à Dieu au sujet de nos fautes passées. Et la vallée d'Achor, en fait, c'est là où Achan, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Achan, Achan a été lapidé avec toute sa famille. Donc, pour resituer l'histoire de la vallée d'Achor, il faut reparler de Josué. Et dans le livre de Josué, la première ville qu'ils ont prise, c'est Jéricho. Et ils avaient demandé, donc Dieu avait été formel et Josué l'avait dit au peuple, vous ne prendrez rien de ce que vous trouverez à Jéricho, ni or, ni quoi que ce soit, tout doit aller dans le trésor de l'Éternel, tout sera brûlé par le feu, tout ce qui a de la valeur sera conservé dans le trésor de Dieu, mais tout sera brûlé, tout sera détruit. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Achan va cacher, va faire un trou dans sa tente, il va prendre de l'or qu'il va trouver à Jéricho, de l'argent, un beau manteau, super, et il va cacher, il va faire un trou, il va boucher, personne n'est vu ni connu, c'est impeccable, personne ne le sait, moi non plus, je ne sais plus. Voilà, tout va bien. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer parce qu'ils vont aller se battre contre une autre ville, contre Haï. Ils sont durs, c'est une petite ville. Il n'y a pas besoin d'utiliser tant de dizaines de milliers de soldats. On va pas faire une histoire pour une petite ville comme ça. Avec 3000, c'est bon. 3000 soldats et on remporte la petite victoire, notre petite journée du Nord. Et puis, le Seigneur sera tellement avec nous que... Et là, ils vont avoir une défaite cuisante. 36 morts. Ils vont devoir courir pour s'échapper au plus vite. Hein, courir, prendre leurs jambes à leur cou. Et ça va être une débandade, une catastrophe, des pleurs, des lamentations. Et puis Josué n'y comprend rien. Hein. Et puis on va demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien du tout. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Et Dieu va dire, voilà, il y a une faute grave qui a été commise. Et puis, une tribu va être désignée, une famille va être désignée, un homme va être désigné, et c'est Achan. Et il va être lapidé avec sa femme et ses enfants, et tous ceux qui étaient de sa famille, malheureusement. C'est triste, mais c'est un triste souvenir. La vallée d'Achor donc nous parle d'un jugement assez sévère par rapport à un Dieu saint qui ne supporte pas le péché. Parce que c'est bien de parler de la grâce, mais c'est quand même important de rappeler que Dieu est un feu dévorant. Il ne supporte pas le péché. Il n'y a pas un seul petit péché mignon qui rentrera dans le ciel, déguisé sous quelque forme que ce soit. Cette vallée du trouble, là où nous avons eu affaire à Dieu au sujet de nos fautes passées, elle va devenir une porte d'espérance. C'est là que Dieu va mettre une espérance devant le peuple d'Israël. Il va ouvrir une porte d'espérance dans ce lieu où il y avait eu le jugement. C'est pour ça que le jugement n'est pas la fin. Quand Dieu juge son peuple, quand Dieu révèle un péché dans nos vies, c'est pas pour nous abattre, c'est pas pour nous flinguer, pas pour nous détruire. Hein, l'ennemi, ça c'est l'accusateur de nos frères, ça c'est pour nous démolir. Mais Dieu, il est bon, il est rempli d'amour et il veut toujours nous relever, toujours nous restaurer, toujours nous garantir un avenir fait d'espérance, une paix. Et cette porte d'espérance mènera à la reprise de la terre promise. Ils reprendront cette terre promise qu'ils ont perdue. Dieu nous fait toujours revenir dans les promesses qu'il nous a données. C'est important. Et la réconciliation d'Osée avec sa femme infidèle illustre, parce que ça se produira. Hein, il y a une espérance, et ça va illustrer l'ultime restauration d'Israël. Et donc le jugement nous montre que l'amour de Dieu n'est pas terminé. Dieu continue à nous aimer. Continue sans cesse à vouloir nous restaurer. Dieu veut parler à notre cœur. Eh bien, moi, je vais la séduire. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. C'est dans la Nouvelle Bible Second, notre version, la top. Eh bien, c'est moi qui vais la séduire. Je la conduirai au désert et je regagnerai sa confiance. Je regagnerai sa confiance. Je vais la séduire, la ramener son cœur vers le mien. L'Éternel va attirer sa femme volage. Attirer suppose un discours tendre, apte à séduire. C'est séduire une vierge, c'est la capacité d'inciter un homme à ouvrir son cœur comme Dalila a ouvert le cœur de Samson. Le Seigneur affirme qu'il conduira Israël au désert. Conséquences du désert. Quelles sont les conséquences du fait d'être au désert? Qu'est-ce que ça va produire? Mais la première chose, c'est la séparation des anciens amants. Israël sera séparé de ses amants dans le désert de la désolation. Dans la désolation, elle va se retrouver seule. Mais la solitude est une chance. La solitude est une chance pour rencontrer Dieu. C'est souvent, quand on est seul, qu'on peut faire une rencontre avec Dieu. Tant qu'on est bien entouré, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de Dieu finalement? On pourrait se dire ça. C'est souvent quand il se passe des deuils, des problèmes, des deuils relationnels aussi. Hein. Je ne parle pas que des deuils de personnes décédées. C'est quand on fait face à des difficultés énormes. Et Israël portera toute son attention sur les paroles divines. Voilà ce qui se passera dans le désert. Puisqu'il ne s'appuiera plus sur les petites choses qui fait tout notre bonheur, et Israël va devoir s'appuyer sur Dieu. Lui, il n'est pas un roseau qui froissé, un roseau qui plie, qui casse, qui se détruit. Il est vraiment un appui solide et sûr au temps des difficultés. Donc Israël aura ses oreilles enfin attentives, ses yeux enfin attentifs. Il aura l'attention, le cœur tourné vers Dieu, le cœur prêt à entendre ce que Dieu veut dire, parce que il écoutait d'une oreille et ça sortait de l'autre. Ça peut être quelquefois comme ça avec nous. Hein. Nous écoutons la parole, oui, je connais déjà. Ah oui, ça, c'est beau, ça. C'est bien, là. Parce que ça produit pas grand chose. Et c'est important de venir à la parole de Dieu, d'avoir ce désir, d'avoir ce besoin. Est-ce que vous avez besoin de la parole de Dieu? Quand on écoute la parole de Dieu et que ça part d'une oreille vers l'autre, faut se demander, c'est de quoi que je vis? C'est quoi mes racines? C'est quoi ma force? Les habitudes que j'ai entretenues pendant des années, ou alors je suis vraiment vivant de la vie de Jésus? C'est qui me porte? Le désert est l'endroit où Dieu a amené Israël après l'Exode. Le désert, c'était la volonté de Dieu pour Israël. Pourquoi le désert? Enfin, le désert, c'est inhospitalier, c'est pas gai de vivre dans un désert. Pas vrai? Jésus, 40 jours dans le désert, ça n'a pas été facile pour lui, hein. Il était tenté constamment par le diable. Enfin, il était ailleurs aussi, mais dans le désert en particulier, il était vraiment tenté. Très fort. Et il a résisté dans le jeûne et la prière et surtout par la parole de Dieu. Il est écrit chaque fois parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Et le désert, c'est aussi le retour vers la parole. C'est la parole qui nous dit, c'est la parole qui nous réconforte, c'est la parole qui nous donne des promesses. C'est la parole qui veut nous faire subsister. Enfin, Jésus est la parole, je suis la parole. Il est la parole faite chair. Les paroles qui viennent de sa bouche donnent la vie. Et c'est vrai que dans le désert, ils étaient sortis d'esclavage vers un endroit où ils vont connaître le Dieu unique. Le désert, c'est l'endroit où la foi naît. Ou alors où la foi est détruite, hein, éventuellement. Ça, c'est possible. Hein. L'un comme l'autre sont possibles. Si vous n'aimez pas le désert, vous pouvez vous rebeller contre le désert. Vous dire, non, je ne veux pas vivre ici, moi. Ça, c'est ce que les Israélites ont fait dans le désert. Hein. À un certain moment, ils ont dit, non, on retourne où on était mieux. Ils ont carrément oublié qu'ils étaient esclaves. Hein, ils voulaient remanger des oignons dans des marmites, mais ridicule. Mais voilà. Donc c'est une épreuve le désert, mais c'est une épreuve où notre foi va être enclenchée, où nous avons la possibilité d'écouter Dieu, d'être cœur à cœur avec le Seigneur et entendre ce qu'il a à nous dire. Un endroit où on dépend de Dieu pour sa subsistance. Vivre par la foi. Ils ont dû vivre par la foi dans le désert. La manne, il y en aura encore demain. Il y en a eu aujourd'hui, mais demain. Quelqu'un peut me dire qu'il y en aura encore demain. Tu vois, c'est pas toujours facile. Parce qu'on ne sait pas. C'est pas aussi sûr qu'un salaire qui tombe au début du mois. Et puisque Dieu avait pourvu, pourquoi est-ce qu'il ne pourvoirait pas encore? Ça me fait penser, si je perdais mes heures de religion, c'est grave. Oui, ça m'a tracassé, et puis je me dis, mais Dieu a pourvu, hein, jusque maintenant. Est-ce qu'il faut que je me tracasse? Un manque de foi, ça. Et donc, je ne dois pas me tracasser par rapport à ça. On doit marcher par la foi. Si je perds mon boulot, ben, alors, je suis foutu? Non, hein. Dieu va m'aider, hein. Donc, il faut pas se tracasser. C'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, c'est pas toujours aussi évident. Mais on finit par réfléchir et se rappeler les promesses de Dieu. Et donc, le désert, c'est l'endroit où la foi doit naître et se développer. C'est l'apprentissage du langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est les promesses de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Ça, c'est le langage que vous devez avoir dans le désert. Si vous êtes dans le désert, ayez le langage de Dieu, pas le langage de tout ce qui ne marche pas, il ne faut pas confesser tout ce qui va de travers, mais c'est le langage des promesses. Parce que Dieu va vous faire sortir du désert. Il y a une sortie à toutes les épreuves. Il y a une porte d'espérance. Et donc, c'est l'endroit où il y a une reconquête qui commence avec Dieu, qui fait la conquête, qui refait la conquête de sa fiancée, de son épouse. Hein. Nous sommes l'épouse du Christ en tant qu'Église. Et donc, il vient, et quelquefois il nous place dans le désert pour reconquérir notre cœur, Donc, c'est pas dans un mauvais sens qu'il nous place dans le désert. Dieu nous aime. Il veut reconquérir notre cœur. C'est ça qui l'intéresse. Plus que toute autre chose, parce qu'il nous aime. Et c'est incroyable, il y a un renversement total. Dieu avait menacé Israël de le rendre semblable à un désert. Il va t'arriver un problème. Tu vas être rendu semblable au désert. Ça va aller mal. Et d'un autre côté, finalement, le désert servira de cadre à ses propositions romantiques. Et Dieu vient dans ce désert. Il fait des propositions romantiques. Ça veut parce que c'est rempli d'amour. Il est tellement rempli d'amour. Il fait la cour à sa fiancée. Incroyable. Il va parler à son cœur. Et il va s'abaisser. Et il ne recule devant rien pour reconquérir le cœur de son peuple. Et ça nous fait penser à Jésus qui a donné sa vie pour nous racheter, d'accord? Il n'a pas refusé de descendre sur la terre, de prendre des épines sur sa tête, de mourir sur la croix, d'être cloué comme un brigand pour nous, parce qu'il nous aime tellement, pour racheter notre vie. Il a donné sa vie pour racheter la nôtre. C'est extraordinaire, ça, de donner sa vie pour racheter la vie des autres. C'est pas beau, ça. C'est puissant. Et au verset 11, au chapitre 11, verset 4, je les ai tirés avec des liens d'humanité. Avec des chaînes d'amour. Je les ai tirés avec des liens d'humanité. Mon cœur est bouleversé, le cœur de Dieu. Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. Des émotions, Dieu. Et comme une mère, comme un père. Avec des émotions. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je ne reviendrai pas détruire Éphraïm, car moi je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Chapitre 11, verset 9. Et au chapitre 13, verset 14, je les libérerai de la main du séjour des morts, je les rachèterai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai. Mais la mort a été vaincue par qui? Par Jésus-Christ. Où est ta puissance et mort? Je les libérerai de la main du séjour des morts. Je les rachèterai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Où est ta destruction? Extraordinaire. Il est vivant, il est ressuscité et il nous donne la victoire sur le mal. Il nous donne la victoire par rapport aux esclavages. Il nous donne la victoire par rapport à tout ce qui nous a aliénés. Et la conséquence aussi pour la descendance, nous avons des enfants ou nous aurons des enfants, il y a des conséquences positives pour tous ceux que Dieu s'est acquis. Des conséquences extraordinaires pour ceux qui reviennent à Dieu, pour ceux qui se laissent interpeller par Dieu, qui écoutent la voix de Dieu, il y a des promesses pour les descendants. Je répandrai pour moi de la semence dans le pays et j'aurai compassion de l'Oruama. J'aurai pas compassion, si vous voulez dire. J'aurai compassion de l'Oruama. Et je dirai à Loami, tu es mon peuple, tu n'es pas mon peuple, tu es mon peuple maintenant. Tu es mon peuple. Tu es mon peuple. Et il dira, mon Dieu. Plus mon Baal, hein, mon Dieu. En conclusion, il y a donc un appel à la repentance. Dieu nous appelle à nous repentir, à nous recentrer sur Jésus, à nous recentrer dans une relation vivante avec Dieu. Dieu nous conduit au désert pour parler à notre cœur. Il y a des difficultés que nous pouvons vivre et connaître dans nos vies. Quelque part, c'est un désert. Il nous conduit au désert au travers de ces choses, afin que nous puissions l'écouter. Et encore, ces passages qui est dans le livre d'Osée, Israël revient à l'Éternel ton Dieu, car tu as trébuché par ta faute. Prenez avec vous des paroles de repentance et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Je guérirai leur inconstance. J'aurai pour eux un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël Il fleurira comme le lit, le lys. Il s'enracinera comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et la senteur du Liban. Il y a une espérance extraordinaire si on revient à Dieu et que Dieu peut nous parler. Nous puissions l'écouter, entendre sa voix et le mettre en priorité dans nos vies. Qu'il soit vraiment premier dans notre cœur. C'est ce qu'il désire. Si nous le faisons, alors nous allons vivre une vie de communion comme jamais nous l'avons eu avec le Seigneur. Il va être premier, il va être vraiment le moteur de nos vies. Dieu veut notre cœur, pas un cœur partagé, mais un cœur entier. Pour ça, il utilise le désert pour nous éprouver et nous ramener à lui. Dieu désire une relation spéciale avec lui. Il demande l'exclusivité de la première place. C'est lui qui doit être à la première place. Il est exclusif. Accepteras-tu de faire alliance avec Dieu tout à nouveau? Est-ce que tu accepteras de faire alliance avec Dieu tout à nouveau? Nous allons pencher nos têtes. Remercier le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es fidèle, tu es bon Seigneur. Merci Jésus parce que tu viens nous retrouver dans notre désert, dans notre solitude, après les problèmes, les difficultés qui peuvent être résultantes de nos fautes. Et c'est toujours avec un but, le but de nous réparer, de nous restaurer et surtout de nous permettre d'entrer dans une relation nouvelle et vivante avec toi. Parce que qu'est-ce que seraient les bénédictions matérielles sans une relation vivante avec le Dieu vivant? Le plus important, c'est notre cœur. C'est pas les choses. Donne-nous, Seigneur, de te donner ce qui est le plus précieux, toi qui as donné ton sang précieux, que nous puissions te donner ce qui a de plus précieux en nous, c'est notre cœur. Et tu veux parler à notre cœur ce matin. Seigneur, merci Jésus, donne-nous d'être dérangés par ta voix qui nous appelle à toi, d'être retournés, d'être remis en question, afin, Seigneur, que tu aies cette première place que tu cherches. Merci Seigneur, merci Père. Si deux ou trois veulent prier, ils sont libres de pouvoir le faire maintenant. Super. Merci Jésus. Amen. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Père. Oui Père. Merci Père. Amen. Oui Jésus. Oui, oui. Oui Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que tu es fidèle. Merci Éternel. Amen. Pour t'obtenir, je paierai le prix. La loyauté et la justice, l'amour et la tendresse, Oui, je t'obtiendrai par la fidélité, alors tu me reconnaîtras comme le Seigneur. Extraordinaire. Quel Dieu d'amour. Tisse des cordages d'amour envers nous. Il veut vraiment agir dans nos cœurs. Alors, nous allons chanter Règne en moi, oui. On va se mettre tout debout, si vous voulez bien. Libre.